Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Petits éclats de lire. Je suis Edgar Scott et aujourd'hui je suis avec Michel, bénévole et ancienne psychologue avec laquelle.
Bonjour à tous, psychologue dans une ancienne vie.
Aujourd'hui, on va vous présenter quatre livres du dernier comité lecture. Donc, on en a pour tous les goûts et c'est bien. Et on va voir même un petit peu de rock mexicain pour pimenter tout ça. Alors, le premier livre s'appelle Un amour de petite sœur, édité chez Albin Michel Jeunesse, avec un texte de Astrid Desbordes et les illustrations de Pauline Martin. Est-ce que tu as un mot à dire sur les auteurs?
Oui, alors Astrid Desbordes, elle a d'abord fait des études de philosophie, puis elle écrit des livres pour enfants. Pauline Martin, elle a commencé par des études de médecine, puis elle s'est mise à dessiner. Elle est passée par l'école de Sèvres, puis à l'Institut supérieur des arts appliqués de Paris. Elle fait des livres pour enfants, mais pas seulement, elle fait aussi des BD pour adultes.
Alors, il faut dire que c'est une collaboration des deux auteurs qui a déjà eu lieu et qui a donné issue à un coup de cœur qu'on a déjà présenté il y a un mois, enfin il y a plusieurs mois dans l'émission Petits éclats de lire, qui s'appelait Mon amour et qui touchait le lien parent-enfant, le lien d'amour parent-enfant. Dans cette nouvelle collaboration, est-ce que tu as quelque chose?
Oui, je voulais dire l'arrivée d'un bébé dans un couple.
Oui, voilà. Et dans cette collaboration, comme le titre l'indique, Un amour de petite sœur. On s'intéresse au lien de l'arrivée du deuxième enfant et le lien de fraternité qui en découle.
On peut dire que c'est un livre de l'annonce de l'arrivée d'une petite sœur, puis du partage de vie avec la petite sœur, avec les émotions parfois ambiguës, les joies, les déceptions. On peut dire que c'est un livre qui se lit et qui se regarde facilement. Voilà.
Donc
Vous
dans la forme,
voyez.
c'est un petit livre carré comme le livre Mon amour. Et il a le même style de dessin, un peu les mêmes couleurs, avec un texte touchant, de l'humour entre le texte et l'image, qui se renvoie assez bien l'appareil. Et donc on va vous lire quelques extraits.
Alors, je vais vous lire quelques petite page qu'on a notée. Donc, au début, une petite sœur, c'est invisible, ou alors bien cachée. On voit le petit garçon qui soulève le ventre de maman, le pull sur le ventre de maman. Après, ça ressemble à un gros ballon de foot, mais c'est pas tout à fait comme au foot, car les pieds sont dans le ballon. Ensuite, eh bien, la petite sœur est arrivée, mais ma petite sœur, elle est vraiment toute petite, mais parfois elle prend beaucoup de place. Et puis on voit le petit garçon qui s'éloigne un peu et qui dit, et même un peu la mienne. Mais maman m'a dit que dans le cœur des parents, il n'y a jamais de problème de place. C'est grand comme le ciel. Alors ça, je trouve que c'est une remarque très très juste, parce que souvent les parents qui attendent le second, ils disent, mais on aime tellement le premier, comment on va faire pour aimer le second? Et on peut dire que chaque bébé arrive avec son petit baluchon d'amour et il n'apprend pas à aimer ses parents. Et nous, les parents, on n'apprend pas non plus à l'aimer. Ça vient avec. Et les cœurs des mamans s'agrandissent avec le nombre de bébés. Et puis, la petite sœur grandit. Et puis, le garçon aussi grandit. Et parfois, quand on grandit, on a peur du noir alors que le bébé dort paisiblement à côté. Et le texte dit. Quand elle a un peu peur du noir, ma petite sœur vient près de moi et ensemble, on n'a plus peur de rien.
Et donc là, on voit l'illustration qui est en opposition avec le texte, où dans le lit, on voit la petite sœur qui dort très bien dans son lit de son côté, et le grand frère qui a les yeux grands ouverts et qui a peur du noir et qui va dans le lit de sa petite sœur pour dormir.
Et on imagine bien que le lendemain matin, la maman va dire, Alors, t'as dormi avec la petite sœur? Oh oui, elle avait un peu peur. Mais bon, on sait bien que c'est le contraire. Et puis aussi, le petit garçon, il va pouvoir dire, et quand elle est vraiment pas là, c'est bien aussi. Et puis, il va y avoir la rivalité dans les jeux. Parfois, ma petite sœur et moi, on est en guerre. Pour toujours. On voit le petit garçon qui est en colère. Face à la petite sœur qui n'a pas l'air très touchée. Mais le texte ajoute, mais jamais pour longtemps. Et à l'image suivante, les voilà repartis à faire leur tour en capla.
Donc voilà, donc pour ce livre, on a un dernier truc à lire?
Oui, le petit mot de la fin.
Ah oui, le dernier mot de la fin. car ce que je préfère avec ma petite sœur, c'est être son grand frère. Donc on a beaucoup de questions abordées, questions sur la fraternité abordées dans ce livre, sur le nouvel enfant qui arrive. Et ce livre est un bon moyen de les aborder avec son enfant, je pense. Dans ce cas-là. Est-ce que tu as un dernier mot?
Oui, je trouve tout à fait ça intéressant parce que quand on annonce à un enfant qu'il va y avoir une petite sœur qui arrive, il se projette tout de suite avec un compagnon de jeu. Et souvent, la grande déception, bah, c'est que c'est une petite chose qui pleure beaucoup, qui est pas très intéressante, qui rit pas quand on lui parle. Et donc souvent, il y a une déception qui est là. Et ce livre, il l'aborde de façon très simple, pas du tout dramatisante, mais pour dire que ça va se passer comme ça. Donc, c'est vraiment un livre, je dirais, très abordable pour un enfant dès 2 ans. Et il peut aider aussi les parents à décrire ce qu'est une petite sœur ou à pouvoir le rappeler plus tard en disant, tu sais, dans le livre, ça se passe comme ça. Mais après, ça se passe bien.
Voilà, après ce dernier diagnostic de notre ancienne psychologue avec Ali. Je rigole. Donc c'était Un amour de petite sœur par Astrid Desbordes et Pauline Martin. Alors notre deuxième livre s'appelle Cette nuit-là. Et donc c'est un livre de Rémy Courjon, édité par Mango Jeunesse. Donc Rémy Courjon, on va pas vous le présenter, il est déjà venu à Manosque, et surtout dans 2 semaines, il sera là pour la fête du livre, donc je vous invite à venir le rencontrer carrément. Et donc pour ce livre, on a un livre qui change de l'ordinaire, donc déjà on a une forme en demi-lune. Donc un livre en demi-lune, c'est assez rare, donc pour les efforts d'éditeur, ils ont dû l'éditer en Chine. Donc c'est un livre qui va montrer par sa forme et par l'image toutes les évolutions de l'époque de la Lune et les illustrer avec un texte humoristique pour expliquer.
Et comment tu ranges ce livre en demi-lune sur l'étagère?
Ah oui, alors on a une anecdote. Pendant le comité lecture, on savait quelqu'un se posait parce que le livre est vendu avec un petit carton carré dans lequel se range le livre. Et donc une bibliothécaire a demandé mais à quoi sert le carton? Mais vu la forme du livre en 2001, si on n'a pas le carton et qu'on essaie de le ranger dans la bibliothèque, il va rouler et tomber. Donc simplement, le carton est là pour faire tenir le livre dans la bibliothèque.
Alors c'est un livre qui n'a que 2 couleurs, le jaune, la couleur de la lune, et le noir, la couleur de la nuit. Et sur chaque page, quand on ouvre, il y a un jeu de fond et de forme qui s'opère entre ces 2 couleurs, pour nous montrer les différentes phases de la Lune. Et les différentes phases de la Lune sont accompagnées par une petite histoire à chaque fois qui varie et qui reprend la forme de la Lune. Il y a seulement un personnage qu'on revoit 2 fois. C'est Pierre-Édouard qui mange du camembert à la demi-lune et j'ai oublié le nom, mais on est aussi en Normandie, du Livaro à l'autre demi-lune. Voilà, c'est un livre, je dirais moi, très agréable à lire parce que c'est une petite histoire pour chaque développement de la Lune. Et c'est, je dirais même, un livre poétique et d'autant plus intéressant qu'on sait que la Lune, elle intéresse les petits dès 1 an. Ils sont passionnés par la Lune, on la regarde par la fenêtre et donc, ils vont s'intéresser au texte un peu plus tard, mais je pense que dans leurs mains, dès la première année, ils seront très contents de le regarder. Et puis, ça va se poursuivre jusqu'à la fin de la maternelle, parce que les histoires sont très sympathiques, même si elles sont très courtes.
Donc voilà, c'est un livre très bien pour les petits-enfants et qui fera lire les personnes qui le lisent en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est un bon ouvrage, et c'est pour ça que c'était notre coup de cœur du comité de lecture. T'as un dernier mot sur le livre?
Non, je crois qu'on a tout dit.
C'était Cette nuit-là, de Rémy Courjon.
moi, j'avais bien envie d'entendre une petite histoire.
Alors, pris de remords, nous allons lire deux petites histoires. La première, c'est « Cette nuit-là, Mathias se dit que la lune pourrait s'appeler arc-en-ciel parce qu'on voit une lune à peine naissante qui fait donc juste un petit filet d'arc et donc on voit Mathias dans son lit puisque c'est cette nuit-là et ça s'est transformé en arc et il tire une flèche. C'est des dessins faits, je pense, à la plume ou en gravure qui sont vraiment très jolis.
Et donc on a un deuxième extrait. Cette nuit-là, Anton se demanda si la lune n'était pas de sa famille. Et donc on a une lune couchante là, qui est pas très grosse, mais un peu plus large que celle que l'arc de cercle. Et on a sur l'illustration un chat avec la même forme, la même couleur, qui est de la lune qui forme sa queue. Et donc il se demande, ah tiens, la lune ressemble à...
Et puis il y a l'anecdote aussi de la pleine lune, puisqu'on sait que les jours de pleine lune, c'est là qu'il y a les coups de folie, c'est là qu'on ne dort pas. Alors on a tous les personnages qui sont réunis la nuit de la pleine lune, dont le fond est jaune. Et le texte dit, cette nuit-là, la lune ressemblait tellement au soleil que personne n'arriva à dormir. Et tout le monde porte des lunettes de soleil, même le chat, le singe et le hibou.
Et donc maintenant, on va vous proposer le troisième livre. C'est comme ça, de Paloma Valdivia, publié à La Joie de lire. Donc, est-ce que tu as un mot à dire sur l'auteur ?
Oui, je dirais qu'elle est née au Chili. Elle y a fait des études de dessin, puis elle est venue à Barcelone, à l'école EINA, et aujourd'hui, elle réside à Barcelone. Alors, c'est un livre, je trouve, qui est soutenu par ce que moi, je m'imagine de l'Amérique du Sud, par les couleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier blanc dans ce livre, tout est coloré. Mmh. Et voilà.
Donc, pour vous mettre faire une mise en bouche, on va vous lire juste déjà, pour commencer, la première phrase. Pour vous faire comprendre un peu le sujet du livre. Ah,
je ne sais pas si on a dit le titre.
C'est comme ça, si je l'ai dit.
C'est comme ça.
Certains nous ont déjà quittés. Le chat du voisin, la tante Marguerite, le poisson de la soupe d'IA. D'autres vont venir. Les uns ont été commandés, les autres arrivent sans prévenir. Ceux qui restent pleurent ceux qui sont partis. C'est bon de se souvenir. Donc juste avec ce début, on peut comprendre que voilà, ça parle de la vie, de la mort, mais d'une façon très légère. Et c'est ça qui est bien avec ce livre, c'est que c'est une façon d'aborder les choses, de ben, pourquoi est-ce que mamie, elle n'est plus là, avec son enfant, et de le faire d'une façon très légère, et pas s'en prendre de parti non plus, de prise de parti de religion.
Et je dirais aussi d'une façon très juste, parce que pour un enfant, c'est aussi important de perdre son chat, sa tante Marguerite, ou le poisson de la soupe d'hier, ça peut provoquer la même émotion. Il peut y avoir un grand chagrin d'avoir perdu son chat, autant que pour la tante Marguerite. Et à chaque page, c'est ce qui est intéressant, c'est que les mystères de la vie sont abordés de la même façon que le mystère de la mort. Et je pense que le graphisme coloré donne le ton que la vie, c'est pas triste, c'est pas gai, mais... c'est plein d'émotions qui se chevauchent.
Voilà, et après, plein de petites phrases, on a une grande double page, tout rose, avec un chat qui saute sur des toits, qui court derrière un oiseau, et un avion qui passe dans le ciel et qui écrit en gros avec la fumée, c'est comme ça, le grand constat de la vie. Après, on a une image avec ceux qui partent. Ils ne connaissent pas leur destination. Et ils sont sur un bateau qui s'appelle la Lupita. Donc le livre aussi a des petits détails. Il y a un timbre avec marqué de l'espagnol dessus, une carte postale en fond. Et donc là, on a ce mot, la Lupita. Donc moi, je ne savais pas ce que c'était, je me suis renseigné. Et donc c'est en fait le surnom de Notre-Dame de Guadeloupe, le nom de la Vierge Marie au Mexique. Et comme elle est apparue sur le fleuve Guadalupe, donc c'est devenu un prénom féminin assez répandu, et le diminutif de ce prénom est Lupita. On va dire un autre.
Alors point, moi je mettrais juste un petit bémol à propos. Alors je cherche le petit texte. On peut penser que ceux qui s'en vont et ceux qui arrivent se croisent dans le ciel. Ils se souhaitent bonne chance. Alors mon petit bémol est que souvent, quand l'enfant est petit et qu'il faut lui annoncer la mort de quelqu'un, souvent les adultes disent « il est parti au ciel », c'est une façon de se consoler. Mais souvent, ça met dans la tête de l'enfant de la confusion, parce que moi je dis toujours que celui qui habite le ciel, c'est le Père Noël. Et du coup, quand la Noël arrive, des fois on entend les enfants qui disent « peut-être il va me ramener mon papa ». Et c'est là où on se rend compte que ben, c'est difficile d'expliquer que c'est pas tout à fait comme ça. Donc ça, c'est mon petit bémol. Mais à côté, il y a des choses tellement justes. Le petit texte est très court. « Ceux qui viennent ne savent pas non plus où ils vont. Ainsi va la vie. D'où ils viennent, où ils vont, un vrai mystère. Mais nous, qui sommes là, sommes bien là. » Autant goûter le temps présent.
Et sur les illustrations, on a toujours les mêmes personnages du début à la fin, qui grandissent, qui évoluent. Et sur la page de titre C'est comme ça, dès le début, on a une grand-mère qui lit le livre C'est comme ça, avec une petite fille sur les genoux. Et à la fin, dans la dernière page du livre, on a une jeune femme qui apparaît être
la petite fille qui a grandi,
qui lit le livre C'est comme ça, et on voit comme ce qu'on dirait un esprit de la petite grand-mère derrière elle, qui veille sur elle, et donc qui lui rappelle des souvenirs. Et dernière chose, sur ce livre, donc la Lupita, j'ai vu que c'était Notre-Dame de Guadeloupe, mais c'est pas dit clairement, donc peut-être que c'est une autre solution. C'est aussi un groupe de rock mexicain très connu, donc on va vous mettre un extrait pour vous réveiller pendant la sieste.
Voilà, on vous a donc présenté C'est comme ça, et puis le groupe de rock, la Lupita. Alors on rajoutera juste pour le mot de la fin que c'est un livre qui, je pense, va intéresser les enfants à partir de 3 ans, puisque c'est là qu'on se pose des questions sur la mort. Quand les choses sont mortes, est-ce qu'elles peuvent revivre? C'est là où les enfants écrasent les fourmis pour voir ce qui leur arrive après. C'est là où ils regardent les fleurs se faner et se demandent si en les remettant dans l'eau, elles ne vont pas revenir à elles. Voilà, je pense que c'est un livre à partir de 3 ans.
Et donc, notre dernier coup de cœur, c'est Santa Fruta. Donc, ça sonne mexicain, mais c'est bien le bien français. C'est juste pour mieux aller avec la transition. Donc, c'est un livre sous un texte de Delphine Perret, mis en image par Sébastien Mourin. Delphine Perret, tu es issue de l'École des arts décoratifs de Strasbourg et l'illustrateur est diplômé de l'école Émile Coll et travaille dans l'atelier Le Bocal à Lyon. Donc, si vous voulez le rencontrer, c'est possible, si vous habitez à Lyon. Alors, on a un format de mini-BD, comme les comics américains, en rigide, et avec un contenu très original qui est l'histoire d'un cactus et d'un chat, publié aux éditions Les Fourmis Rouges. Tu commences?
Oui. Alors, je vais commencer par vous faire un peu de la lecture. Alors, on parle d'un couple, on va dire jeune cadre dynamique. On ne nous le dit pas, mais c'est moi qui le pense. Et il rêvait d'un gros chat à bourrelet. Un gros chat à prendre en photo avachi sur le canapé ou coincé dans un paquet de chips. Un chat qu'on pourrait porter en écharpe pour faire rire les invités et qui aurait un beau pelage qu'on passerait à l'aspirateur. Au lieu de cela, ils avaient un chat maigre, à poils ras, qui aimait par-dessus tout s'aplatir par terre à côté du radiateur, et qui ne grossissait pas, malgré les dernières croquettes croustichiques fourrées au beurre de cacahuète. Le chat a certainement un nom, mais on ne le connaît pas. Et puis le cactus qui arrivera plus tard, personne ne l'appelle.
Et donc le chat est noir, donc c'est bien, ils veulent un chat blanc, ils veulent le nourrir pour devenir un chat blanc, alors qu'il est noir à la base, ce qui est...
Et maigre.
Ouais. Ce qui montre un peu, ce qui critique un peu la volonté qu'ont les parents souvent de faire sur leurs enfants, d'en faire des scientifiques ou de faire avoir un bac S alors que l'enfant n'est pas du tout dans son intérêt. Enfin, on a plusieurs lectures sur ce livre qui sont intéressantes. On a un texte très rigolo et très bien illustré, avec des illustrations tout aussi drôles tout le long.
Avec des jolies métaphores sur la vie d'aujourd'hui, matérialiste, pressée, où c'est obligé que tout aille bien, quoi.
Et donc leur chat est malheureux. Et donc là, on a cette double page avec le chat sur un divan chez le psychologue.
Avec un chat malheureux, on l'emmène chez le psychologue pour chat.
Et donc, je vais vous lire. Le psychologue pour chat leur avait dit qu'ils devraient emmener leur chat au prochain voyage, car il était sûrement maigre parce qu'il était malheureux. Ça, tout le monde était d'accord. Et qu'il serait sûrement moins malheureux s'il partait avec eux. Le chat n'avait pas compris, car les chats ne comprennent rien quand on parle. Si on lui avait demandé son avis, il aurait dit non, mais on n'aurait rien compris, car on ne comprend rien quand les chats nous parlent. Donc ça montre un peu le ton du texte, de l'image, tout ça.
Et donc ce jeune couple de jeunes cadres dynamiques emmène le chat, qu'ils emmènent, c'est facile, il est tout maigre, donc ils le coincent dans la valise entre deux piles de vêtements. Mais en fait, ils n'ont pas demandé l'avis au chat.
Voilà, et donc après, ils vont faire 24 voyages avec leur chat, toujours aussi malheureux, qui pense juste à son radiateur. Jusqu'au jour, ils vont partir à Santa Fruta, dans le Colorado apparemment, où il y a un cactus, parce qu'il y a aussi l'histoire en parallèle du cactus.
Et là, le livre bascule.
Tu veux lire ?
Oui.
Alors, c'est quelle page ? Voilà. Ils demandèrent aussi à s'arrêter pour faire la photo d'un panneau. Un panneau à côté d'un cactus. Monsieur voulut photographier de plus près et, en se penchant, se piqua méchamment contre le cactus, ce qui fit beaucoup rire le chat. Le cactus en fut étonné, les humains en furent étonnés, le chat lui-même en fut étonné. L'homme cracha un juron et se redressa en se frottant la fesse. Le chat, lui, sauta avec grâce sur le sol à côté du cactus. Il y eut un silence. Le chat cligna des yeux. Et pour la première fois de toute leur vie, ces humains-là comprirent ce que ce chat-là voulait leur dire.
C'est donc une anecdote de vie, le fait que le propriétaire du chat se pique la fesse au cactus et se fasse mal. C'est alors que l'histoire bascule puisqu'on retrouve de l'humanité. On peut se poser la question, est-ce que c'est la souffrance qui révèle la vérité ? J'espère que non. Mais dans ce livre, c'est la souffrance qui permet aux jeunes cadres dynamiques de devenir vrais. Et on peut dire déjà que l'histoire se termine bien, puisque notre chat, il se trouve très bien sous ce cactus, ce nouvel ami, dans lequel on sent de l'humanité. Il a fait un bon remplacement du radiateur, qui même s'il donnait de la chaleur, avait quand même un rapport très froid avec le chat. Et puis, la dernière image, c'est une petite Mexicaine, bien sûr, puisqu'on est au Mexique. Et on voit qu'elle s'approche avec une gamelle, visiblement, de chat. Donc on se dit, ben tiens, le chat, il aura à manger, il va avoir une nouvelle vie. Et une nouvelle compagnie avec son cactus.
Alors, pendant le comité lecture, pour anecdote, moi, je n'avais pas vu la petite Mexicaine à la fin. Alors je trouvais que c'était horrible, parce que ça justifiait l'abandon des animaux... dans la nature, quoi. Et en fait, non, parce qu'elle change de famille juste.
C'est une nouvelle vie.
Il y a cette boutique mexicaine qui lui apporte son bol de lait, donc ça va.
Une nouvelle vie pleine de tendresse. Ce que le chat n'avait toujours pas rencontré jusque-là, même avec ses super croquettes au beurre de cacao, chic.
Voilà. Et donc, on a plusieurs lectures aussi. On a beaucoup de critiques de la société.
Oui.
Notre tendance à aller partout, vite, sans prendre sans prendre le temps de rien faire vraiment.
Par exemple, le jeune cadre là, il a toujours son appareil photo et on voit qu'il voit tous les paysages à travers les photos qu'il fait et il regarde pas vraiment.
On voit même là, sa femme faire un selfie dans le fond.
Oui.
Les illustrations sont assez hilarantes. C'est bien. Enfin, c'est un livre qui est drôle pour les enfants avec les illustrations et tout ça, et pour les parents parce qu'il apporte une réflexion, une petite critique sur notre vie de tous les jours. C'est ça qui intéresse.
Voilà, reprendre notre vie de façon plus simple et plus humaine, se laisser un peu aller à ses sentiments. Voilà.
Voilà pour Santa Fruta, l'histoire d'un cactus et d'un chat.
Alors, notre prochain comité de lecture sera le mardi 7 juin, donc dans le local de l'association Éclat de lire à la MJC. Je rappelle que c'est ouvert à tout le monde, donc que chacun peut amener ses coups de cœur ou bien des nouveautés qui ont plu. Et on échange, on présente le livre et puis on retient au niveau des gens d'Éclat de lire les certains livres qu'on va présenter ensuite le jeudi qui suit. Donc on sera le 9 juin à 15h sur l'émission des petits éclats de lire. Voilà. Et puis il y a un événement là à très court terme, c'est la fête du livre de l'association Éclats de lire qui va être à Manos du 24 mai au 28 mai où on va recevoir beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs différents. Ou aussi la journée du 24 mai est réservée aux tout petits, on va dire dès la marche, même dans les bras de maman, ça peut être intéressant. Et Marie-Christine Aveline, notre directrice, viendra parler le jeudi 19 mai au journal local de notre radio à 10h le matin. Voilà.
Voilà, et on remercie même Fréquence Mistral de nous laisser faire cette émission encore une fois.
Merci et à très bientôt.
À bientôt.